Bienvenue pour ce numéro zéro de ce podcast. Je suis Pascal Solière, donc architecte infrastructure chez Microsoft France, et je suis en ligne avec Stanislas. Bonjour Stanislas.
Bonjour, donc Stanislas Castana, et je suis, comme toi Pascal, architecte sur la partie infrastructure chez Microsoft, et je suis accompagné de Arnaud.
Bonjour à tous, et bien pareil, architecte infrastructure chez Microsoft France.
Alors il faut préciser qu'aujourd'hui on est le 31 octobre 2014, c'est Halloween, mais c'est également le dernier jour du TechEd Europe 2014 à Barcelone. Et Arnaud et Stan sont en direct de Barcelone, n'est-ce pas ?
Oui, en digne représentant, nous sommes portés volontaires pour venir travailler à Barcelone. Alors pas de sourire dans la salle, c'est aussi du travail. Et puis donc, nous avons profité pour faire une session également dans l'événement. Et puis, nous avons assisté donc aux différentes keynotes.
Et donc, je crois que cette session, c'était ce matin très tôt. Hein.
Beaucoup trop tôt. C'était à 8h30. On était quand même surpris d'avoir plusieurs centaines de personnes dans la salle pour entendre parler de ça. Hein.
Et le sujet, justement, c'était
Eh ben, c'était la virtualisation de réseau avec Hyper-V. Donc Hyper-V Network Virtualization, comment est-ce qu'on met ça en œuvre et comment est-ce qu'on le dépanne un petit peu.
Voilà, donc sujet plutôt un peu ciblé quand même, assez particulier. Mais en fait, on a eu une bonne audience pour une heure, pour un sujet tel que celui-ci, et pour une heure surtout aussi matinale. D'autant plus que, comme tout le monde le sait, TechEd, c'est aussi l'occasion de sortir un petit peu le soir dans Barcelone, de rencontrer d'autres participants de l'événement. Ce qui fait que Barcelone étant une ville très accueillante pour la nuit, pas mal de gens ce matin étaient pas forcément très bien réveillés. Voilà. Néanmoins, l'événement qui a duré 4 jours il y a eu plusieurs centaines de sessions et assez diverses hein, pour développeurs, IT, DBA, décideurs. Et donc, on a fait également notre petit marché avec Arnaud sur nos sujets plus ou moins respectifs. Et puis, du coup, on a également vu la partie keynote, comme je le disais. Donc, c'est un petit peu l'idée de se faire un petit débriefing durant les prochaines minutes, un petit peu de ce qui s'est passé, de ce qu'il y avait eu comme annonce à Barcelone, parce qu'il y a eu pas mal d'annonces. Alors, petite précision, TechEd Barcelone, c'est le dernier TechEd de la série de cette année. À partir de l'année prochaine, il y aura un nouvel événement Microsoft qui s'appelle Arnaud.
Il s'appelle Ignite.
Ignite, qui veut dire donc en français
Qui veut dire un petit peu démarrer, initier, mettre le, un petit peu l'essence dans le moteur. Quoi.
D'accord, voilà. Et donc ce sera un nouveau gros événement Microsoft qui inclura pas mal de choses pour les développeurs et les IT. Donc on va dire un super TechEd pour faire simple.
Et si je ne m'abuse, Ignite est prévu au mois de mai, début mai, je crois, 2015, à Chicago.
Exactement. Super. Exactement. On n'a pas encore d'informations s'il y aura un Ignite en Europe. Mais bon, on va dire que les prochains mois donneront effectivement plus de visibilité sur ce sujet. Dans tous les cas, pour ceux qui ne peuvent pas aller aux États-Unis, on a en France un événement aussi grand, même un peu plus grand que TechEd, hein, qui s'appelle les Tech Days, qui auront lieu du 10 ou 12 février. Et là, déjà, on aura l'occasion de revenir sur pas mal de choses, de nouveautés qui vont être annoncées entre ce TechEd-là et le mois de février.
Super. Donc, vous avez assisté un petit peu à pas mal de présentations et vous avez vu, je suppose, le keynote du premier jour, de mardi matin, avec Jason Zander et puis Joe Belfiore, Marco Sinovich, que du beau monde.
Oui, enfin, on ne les connaît pas tous, mais si, je plaisante. Non, effectivement, c'était un beau keynote. Il y avait une salle qui était assez grande et vraiment bien, bien remplie. Et puis, il y a eu de la petite démonstration et surtout beaucoup, beaucoup d'annonces. C'est assez rare, en fait, que les annonces soient faites sur les événements européens. Et là, il y a eu vraiment pas mal de choses qui ont été annoncées. Donc c'était un beau keynote.
Donc il y avait pas mal d'annonces, hein, pas mal de nouveautés, notamment au niveau de tout ce qui est cloud, Azure, mais également des annonces au niveau entreprise connectée, c'est-à-dire en gros la mobilité en entreprise. Et on va peut-être commencer par ce sujet-là, pour ensuite développer largement sur l'aspect cloud. Donc côté mobilité, il y a eu pas mal d'annonces autour de Microsoft Intune, qui est, entre parenthèses, tiens, au passage, le nouveau nom de Windows Intune, hein, c'est Microsoft Intune maintenant. Notamment, au niveau de ce qu'on appelle le MAM. On sait que depuis le début que Windows Intune, c'était du MDM, du Mobile Device Management, mais maintenant on entre également dans le Mobile Application Management, MAM. Et le principe...
Si on prononce le MAM, ça peut rappeler d'autres choses pour les Français.
Voilà, le MAM.
Le MAM.
Donc, gestion des applications, et donc l'idée, là, ça va être de paramétrer, enfin de descendre sur les postes des paramètres concernant ces applications. Plus des fonctionnalités de type DLP qui vont accompagner un petit peu tout ça, notamment possibilité d'isoler les applications corp, les applications d'entreprise, par rapport aux applications personnelles. Par exemple, il y a une belle démo, une démo qui était assez intéressante, je crois que c'est Joe Belfiore qui l'a faite, à moins que ce soit Julie White, je ne sais plus. Le copier-coller entre deux applis...
je crois que c'était Joe Belfiore.
C'était lui.
Effectivement, l'idée, c'était qu'avec une application personnelle installée par l'utilisateur sur son périphérique et une application d'entreprise, on puisse créer des politiques en fait, basiquement de sécurité, qui disent ben on peut pas faire un copier-coller d'une information qui est dans l'application d'entreprise et coller l'information dans l'application grand public. Bon, un exemple simple, application d'entreprise, c'est la boîte aux lettres électronique de l'entreprise. Et puis l'application grand public, ce serait par exemple, je sais pas, un Evernote ou un OneNote personnel. On voudrait copier le contenu d'un mail qui a été envoyé en interne et qui a été protégé. Sachant que l'idée, je pense que ce sera la répercuter également au niveau de Windows 10 là-dessus, sur ce modèle d'isolation entre guillemets des applications corp versus pas corp.
Donc il y a la gestion des policies pour les applications Office, il y a une annonce également autour de l'app wrapping, des wrappers d'applications qui vont permettre, si j'ai bien compris, d'encapsuler des applications existantes pour leur donner des droits ou leur interdire des choses sur les données d'entreprise. Des nouvelles applications mobiles pour permettre aux utilisateurs d'entreprise de consulter du contenu de manière sécurisée sur leurs appareils, donc en étant le modèle DLP à d'autres applications. J'ai vu également qu'au premier trimestre 2015, on annonçait des fonctionnalités de MDM intégrées à Office 365, donc ça c'est pas mal aussi comme nouveauté, c'est-à-dire qu'on va pouvoir bénéficier de ce genre de fonctionnalités de policy, de sécurité, etc.
Alors là, à noter que c'est pas une réécriture, en fait, c'est pas l'équipe Office 365 qui gère sa propre solution de son côté.
Tout à fait, ça utilise Microsoft Intune, mais un sous-ensemble de ces fonctionnalités. Et en fait, ça permet de bénéficier de certaines de ces fonctionnalités sans payer l'abonnement à Intune du moment qu'on a Office 365. Bon, ensuite. Le fait d'ajouter dans l'histoire où Microsoft Intune, voire SSCM, évidemment, va permettre d'étendre les fonctionnalités. Donc ça, c'est premier trimestre 2015, donc bon, on a encore le temps de voir venir. Peut-être qu'on en parlera au Tech Days. Mise à jour de AD Premium en fin d'année. Des infos là-dessus ou...
Oui, en fait, AD Premium, donc c'est Azure Active Directory avec des fonctions étendues principalement pour les utilisateurs. Donc, les nouveautés qui vont arriver, ce sera la possibilité de réinitialiser son mot de passe Active Directory interne de l'entreprise via en fait un portail qui sera lui hébergé dans Azure. Donc, en fait, on va avoir ce qu'on appelle un password
H du password.
Ouais, c'est ça qui va être envoyé en fait vers l'IT interne. Donc, depuis du cloud public, l'utilisateur pourra réinitialiser ou changer son mot de passe de l'Active Directory interne. Il y a également eu des services tels que Cloud App Discovery, qui est une solution qui permet aux administrateurs d'évaluer le nombre d'applications cloud de type SaaS qui sont consommées par les utilisateurs sur les PC d'entreprise, ce qui permet après d'enrichir un portail d'accès applicatif où l'administrateur IT va pouvoir packager les accès vers des applications SaaS extérieures à celle de l'entreprise, avec toujours maintenant du single sign-on. L'idée étant de simplifier la vie aux utilisateurs et également d'éviter le phénomène dit de shadow IT, où en gros on a des divisions métiers qui s'achètent ou qui consomment des services cloud sans prévenir l'informatique, avec potentiellement le risque de diffuser de l'information à l'extérieur ou de faire des projets en parallèle d'autres projets qui doivent servir les mêmes besoins. Basiquement, c'est ça.
Et puis on a aussi le application proxy qui va être essayé, hein, Azure AD application proxy qui va permettre en fait, alors là c'est un truc qui est intéressant, c'est de prendre une application qui est à l'intérieur de l'entreprise et puis de la rendre publique, enfin publique entre guillemets, hein, accessible à mes utilisateurs de mon AD premium depuis l'extérieur. Donc c'est un serveur qu'on installe en interne qui va permettre de faire du proxy un petit peu en mode inverse. Hein.
Voilà, donc on est totalement sur un reverse proxy où cette fois-ci c'est pas le service de reverse proxy n'est pas hébergé au sein de l'entreprise, mais à l'extérieur dans Windows Azure.
D'accord.
Quelques petits trucs sympas au niveau d'Azure RMS, hein, qui va aussi avec tout ce qui est sujet d'Enterprise Mobilité, c'est un support du format Protected PDF, en fait. Donc, comme ça, on peut échanger des PDF avec des utilisateurs un petit peu partout, sur de l'iOS, sur de l'Android, sur du Windows Phone. C'est plutôt pas mal. Et puis, un truc intéressant sur les notifications, en mettant des notifications sur des utilisateurs qui ouvrent un contenu alors qu'ils n'ont pas le droit. Enfin, c'est pour voir si effectivement le mail a été forwardé et puis il y a quelqu'un qui a essayé de l'ouvrir ou pas. Donc c'est de l'audit supplémentaire pour avoir un petit peu des informations sur les comportements qui pourraient être déviants d'un utilisateur.
Mmh. Mmh. Super. Donc vous aurez les liens évidemment avec ce podcast, là où on le publiera, pour trouver toutes ces informations-là. Il y avait un deuxième ensemble de sujets, je crois qu'on a à peu près bouclé, fait le tour de tout ce qui était mobilité, entreprise connectée, etc. Ou encore quelque chose à dire là-dessus ?
Non, c'est pas mal, je pense. Hein? Peut-être un petit point pour les développeurs, parce qu'il y avait quand même quelques développeurs à TechEd, même s'il y en a moins que dans les conférences spécialisées comme Build, par exemple. Ce qui a vraiment été donné comme message pour les développeurs, on va dire au moins dans la session plénière, c'était la mise à disposition en fait, d'outils de développement cross-plateforme pour en fait, nos services. Donc typiquement, l'exposition de services d'API REST pour la partie Office 365. L'annonce également de nouveaux SDK, donc des SDK Android et un SDK iOS, le tout encore pour Office 365. Donc on est réellement sur une plateforme, donc une stratégie mobile plus cloud, avec derrière une certaine, une plateforme agnostique côté mobile, parce que du coup on a des SDK Android, iOS et Windows Phone, c'est-à-dire basiquement la majorité des smartphones actuels disponibles sur le marché aujourd'hui en termes de part de marché. Et puis également pour les utilisateurs ou les développeurs européens donc qui utilisent du Visual Studio, ils ont également la possibilité d'utiliser la partie, la région Azure qui est Amsterdam, pour stocker des données un peu plus proches d'eux, pour ceux qui les stockaient jusqu'ici plutôt un peu plus loin, côté États-Unis par exemple.
Voilà. Ok. Donc beaucoup de choses autour d'Office 365 hein, quand même dans ce TechEd.
Oui, parce qu'en fait, on place l'utilisateur au centre finalement de tout cela, ce qu'on appelle la productivité de l'entreprise ou la productivité individuelle, ça dépend des termes. Mais on a d'un côté tout ce qui est device, donc tout ce qui est mobile, PC, tablette, téléphone. De l'autre côté, on a tout ce qui est service de cloud, décliné dans les différents modèles, software as a service, ou plateforme de service, ou infrastructure de service. Mais au milieu, ce qui reste, c'est quand même l'utilisateur. Et l'utilisateur, aujourd'hui, dans sa productivité, en tout cas pour l'entreprise, voire individuelle, il utilise quand même beaucoup Office. D'où effectivement le fait qu'on mette l'emphase sur le développement pour toute plateforme de tout ce qui est Office 365.
Et puis on peut dire aussi quelque chose les applications, le DLP, Office, etc. sur les mobiles, c'est que typiquement, les solutions de sécurité sur les mobiles, d'isolation entre entreprises et personnel, si on veut, sont souvent basées sur des silos applicatifs. On a une grosse appli qui fait un petit peu tout, quoi, le mail, les documents, la visualisation, etc. etc. Et rien n'en sort. Alors que là, on a une approche plus multi-applicative, c'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, sur un iPad, on aura Word, Excel, PowerPoint, etc. Et on va pouvoir communiquer entre ces applications-là du moment qu'on reconnaît que ces applications font partie de l'ensemble entreprise. D'accord ? On n'est pas fermé à un seul container très isolé, un seul silo isolé du reste du monde. Donc c'est plutôt sympa comme approche.
C'est plutôt pragmatique, on va dire, effectivement.
Exactement.
Alors, on continue un petit peu notre débriefing de ce qui s'est passé, ce qui a été vu à TechEd. Et on enchaîne par quoi, Pascal ?
Eh bien, je crois que le gros sujet du TechEd, c'était quand même le cloud et Azure. Et la première partie traitée au niveau d'Azure, où il y a eu pas mal d'annonces, c'est tout ce qui est automatisation des opérations et amélioration de la sécurité.
Exactement. Ouais, avec une annonce phare sur un produit qui s'annonce très 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 intéressant, c'est le Azure Operational Insight. Alors ça, historiquement, vous l'avez peut-être déjà vu, hein, mais on est basé là-dessus sur System Center Advisor. Donc Advisor, c'est ce qui va permettre d'analyser ce qui est en train de se passer sur les machines et puis de vous donner un petit peu des infos d'optimisation, de best practice de l'environnement. Et en fait, on y rajoute de l'intelligence à cet Advisor. C'est-à-dire qu'on va tirer parti d'Azure pour faire des prédictions sur dans ton système actuellement informatique, tu as autant de ressources qui sont consommées. Si tu as le même trend qui est en train de se passer, dans 6 mois, il va falloir que tu rachètes des disques durs, il va falloir que tu rachètes de la RAM, il va falloir que tu rachètes des serveurs pour avoir de la puissance de calcul. Donc c'est tirer parti de ça, faire d'analyse des logs également pour dédier des tendances et puis des opérations de troubleshooting, monitorer la sécurité. Enfin, en fait, c'est assez modulaire. Tu as la plateforme d'intelligence globale et puis tu viens plugger des packs d'intelligence spécifiques pour gérer la sécurité ou gérer les event logs et puis gérer la montée en charge. Donc c'est assez sympathique comme plateforme. J'utilise déjà la version Advisor depuis pas mal de semaines. Et puis alors là, ça complète vraiment bien la plateforme, l'Operational Insight d'Azure.
Et du point de vue usage, ça fournit un super joli dashboard.
Ah oui, si vous aimez bien.
La démo est impressionnante, ouais.
Si vous aimez bien les serveurs et vous aimez bien les camemberts, c'est parfait.
Mais je trouve ça plus visuel que peut-être un Operation Manager, un MOM, quand il est configuré de base. Là, vraiment, on a vraiment des super dashboards.
D'ailleurs, j'ai vu le truc, c'est assez sympa parce que tu as deux modes de configuration. Un mode où soit tu peux être asserti à ton Operation Manager qui existe déjà. Mm-hmm. Donc là, il va chercher la data et tu vas gérer tout depuis ton Operation Manager. Mais tu as aussi un mode où tu peux venir avec Operational Insight en ajoutant des serveurs de manière autonome. C'est-à-dire que tu lui dis, tu prends tes données, puis tu vas directement uploader tes informations dans Operational Insight sans passer par une infrascom si tu n'en as pas encore en place.
D'accord, intéressant. Azure Batch, Pascal.
Donc il y avait un deuxième produit, une deuxième annonce assez intéressante, c'est Azure Batch. Donc Azure Batch, c'est un nouveau service qui permet de faire, de l'ordonnancement de batch dans le sens gros traitement qui demande pas mal de puissance, CPU qui bénéficie très naturellement du côté élastique du cloud. Donc le scénario, c'est on a un gros traitement, par exemple, l'exemple cité présenté par Russinovich en plénière concernait des calculs de ray tracing. Il y avait une scène avec des glaçons transparents et puis un verre, je crois, si je me souviens bien, verre avec une boisson dedans.
Oui, toujours un verre avec les glaçons. C'est la règle ici à Barcelone.
Ce qui était surprenant, c'est que les glaçons étaient en dehors du verre, mais bon, ça doit être un truc spécial. Et donc, le calcul de cette image rétrécée avec plusieurs sources de lumière, etc., prenait des heures et des heures sur la machine. Et donc, il a déclenché un batch dans Azure avec un certain nombre de machines. Je ne sais plus combien c'était, si ça comptait en dizaines ou plus.
Moi, c'était en 37, je crois.
37 serveurs.
Ouais.
Et ça a été un calcul qui a été quasiment instantané, quoi, avec. Quelques secondes.
Avec beaucoup de machines derrière aussi, c'est des machines à 8 qui donc ont pas mal de processeurs derrière.
Ouais.
Donc, voilà. Mais là, c'est tout l'intérêt finalement de la solution, c'est de pouvoir à un instant T avoir une très grosse puissance de calcul pour faire une opération donnée. Et une fois que l'opération donnée est terminée, des provisioning, des ressources, et là on est complètement dans l'optique du cloud qui est de ne payer que ce qu'on consomme. Donc ça permet du coup ça de bénéficier d'une grosse puissance de calcul potentiellement pour les traitements. Mais l'utiliser uniquement le temps du traitement et puis après, effectivement, on déprovisionne. Ce qui est plutôt intéressant.
Donc, tout un tas de scénarios, je ne sais pas, financiers, scientifiques ou autres, peuvent bénéficier de ce genre de service-là. Azure Automation a été. Donc, c'est le troisième sujet. Azure Automation, il a été simplement annoncé GA, c'est-à-dire General Availability. Il était en preview depuis quelques mois. Et ça y est, maintenant, il est. Public, il est terminé. Et Azure Automation, pour rappel, c'est une possibilité d'exécuter des runbook PowerShell, donc des jobs PowerShell, directement sur des machines qui se trouvent dans Azure. Donc au lieu de se fier à des machines qu'on a chez nous dans notre propre data center, on va s'appuyer sur des machines qui sont hautement disponibles dans Azure pour exécuter nos scripts Script PowerShell. Donc ce qui peut être plutôt sympa pour des opérations du type ben, la nuit, je veux que telle et telle machine soit éteinte ou allumée, et puis faire tel et tel traitement de façon régulière, etc. Donc Azure Automation. Autre petite nouveauté, Arnaud ou Stan, je ne sais pas, sur les cartes réseau et les groupes de sécurité réseau.
C'était la fête au réseau. Hein. C'était la fête au paquet, là, à TechEd. Il y a eu plein de nouveautés qui concernent le réseau. Alors, on peut en citer une première pour commencer. Effectivement, le support de plusieurs cartes réseau, on nous demandait depuis longtemps.
Dans une machine virtuelle qui tourne dans Azure.
Voilà, donc ça y est, c'est possible, enfin. Un autre truc qui est très sympathique, c'est les Network Security Group qui te permet de gérer, en gros, des templates de filtrage firewall pour la communication de tes machines. Tu dis, bah voilà, je vais déployer tout un tas de VM et c'est tout un tas de VM, ils auront la possibilité d'accepter du trafic entrant, par exemple, sur le port 80, et puis tout le reste, il sera filtré, quoi. Donc ça, c'est pour la partie un petit peu de démarrage du réseau. On a fait beaucoup d'annonces sur ExpressRoute aussi. ExpressRoute, alors bien évidemment, c'est maintenant disponible c'est disponible dans toutes les régions Azure. Il y a de nouvelles régions Azure en Australie. On a la possibilité, et ça c'est quelque chose qui nous est demandé par les grands comptes, de partager une connexion ExpressRoute entre plusieurs abonnements. Donc des gens ont plusieurs abonnements Azure et puis ils veulent consolider au niveau de l'organisation ExpressRoute, c'est-à-dire un lien hautement disponible et à haute performance avec les data centers d'Azure. Donc ça c'était plutôt cool. On gère aussi la haute disponibilité en multi-géo, c'est-à-dire on va avoir une connexion ExpressRoute en Asie, une connexion ExpressRoute en Europe. Comment est-ce qu'on gère la haute disponibilité géographique? Ben, on y a maintenant un support de ces technologies-là.
Et puis si on revient sur ExpressRoute, on a vu également pas mal de... Il y avait pas mal de partenaires, il y avait au moins 3-4 stands de partenaires d'ExpressRoute qui commençaient effectivement à présenter leur offre. Donc doucement, mais sûrement, c'est en train d'arriver également dans notre contrée, c'est-à-dire en France. Donc bon, c'est en train de démarrer, hein, soyons clairs, mais les opérateurs sont plus qu'intéressés et du coup ne vont pas tarder à avoir des offres vraiment bien packagées là-dessus.
Ouais, un truc que j'aime bien, moi, sur le réseau aussi, c'est tu as maintenant une fonctionnalité qui te permet de faire ce qu'on appelle du fortuneling, c'est-à-dire que quand tu gères un lien entre ton data center et Azure, tu peux dire, les machines Azure ne communiqueront avec l'extérieur qu'en repassant par mon data center. Alors, quand tu as un lien site à site, tu peux comme ça éviter que les communications sortent directement sur Internet. C'était quelque chose qui était pas faisable facilement avant et qu'il fallait vachement bricoler. Maintenant, c'est faisable, supporté et c'est dispo dans les interfaces graphiques. Au niveau des passerelles aussi, on a des passerelles IPsec qui maintiennent les liaisons site à site. On a travaillé pour voir qu'elles aient plus de capacité. Faut savoir qu'à l'heure actuelle, jusqu'à présent, on estimait que les capacités d'une passerelle IPsec, c'est environ 80 mégabits par seconde. Donc, ce que certains clients ont trouvé un petit peu à l'étroit. Donc, on a la possibilité maintenant d'avoir des passerelles avec beaucoup plus de capacité. J'ai pas eu les chiffres de quelle capacité a été testée, mais c'est quelque chose qui est possible. Pareil sur les VNet, on a la possibilité maintenant d'interconnecter des VNet, donc des réseaux virtuels dans Azure, sans passer par une gateway qui fait de la crypto. C'est-à-dire que le trafic il sera échangé directement sur le data center, sur le entre guillemets le backbone du data center d'Azure, mais j'aurai plus besoin de payer, d'avoir une passerelle IPsec pour maintenir les communications entre mes VNet. Donc ça permet d'avoir plus de perf et puis de pas dépenser de l'argent pour de la com inter-VNet. Et puis, deux petites dernières. On accueille maintenant Palo Alto et Barracuda Networks, qui fait des grosses machines bien musclées pour faire les VPN device. Donc, en fait, tu sais gérer un VPN site à site maintenant dans Azure avec ces périphériques-là. En gros, on a eu le temps de tester et on sait que ça marche.
Et c'est plutôt bon signe.
Ouais, et dernier point que je voulais vous mentionner pour sortir un petit peu, pour finir en beauté, hein. Vous avez accès maintenant aux logs de la passerelle IPsec. Alors, vous pouvez voir les logs de ce qui s'est passé sur les tentatives de connexion à la machine.
Ce qui n'est pas désintéressant dans certains scénarios pour faire du troubleshooting. Donc voilà, ça devient de plus en plus mature, de plus en plus riche, et c'est plutôt bon signe.
Oh, je peux vous en dire une autre encore ?
Allez. Bah, vas-y, Arnaud.
Allez, ma petite préférée en fait pour la dernière, c'est que dans le nouveau portail d'Azure, en fait, on commence à activer beaucoup de fonctionnalités. Et typiquement maintenant, dans le portail Azure, tu as la possibilité directement de dire si l'adresse IP de ta machine virtuelle, elle est réservée ou elle est dynamique. Donc ça, c'était quelque chose que les gens nous demandaient beaucoup parce qu'avant, il fallait faire en PowerShell. Hein. Mmh. Et on a la possibilité d'avoir une adresse IP aussi, d'avoir une adresse IP directement pour la machine virtuelle qui soit une adresse IP publique. Ça, pareil, avant, il fallait faire en PowerShell, mais maintenant, on a une belle interface pour faire ça.
Et on a droit, par abonnement, jusqu'à 5 adresses IP publiques, si je ne dis pas bêtise. On parle d'adresse IP V4.
Oui, absolument. Donc ça, c'est plutôt cool. Dans l'interface, on peut faire ça directement.
Ça commence à... De toute façon, le scénario est toujours le même. Hein. On implémente souvent sous la forme de commande PowerShell. Et puis ensuite, en fonction de ce qui est beaucoup utilisé en commande PowerShell, eh bien, ça se retranscrit après dans l'interface. Petit point peut-être sur les extensions également qu'on peut avoir sur les machines virtuelles dans Azure. Donc parmi les extensions, il y avait aujourd'hui trois fournisseurs de moteurs antivirus, hein, on va dire d'antivirus pour les machines qui sont dans Azure. Donc Trainmicro, si je dis pas de bêtises, McAfee, non c'est Symantec. Symantec et Microsoft. Microsoft était encore en mode preview. Désormais, on est placé en mode Global GA, donc Global Availability. Donc désormais, c'est une extension qu'on peut avoir, et donc on a le moteur antivirus de Microsoft qui tourne pour les VM et les services de cloud. Au passage, dans les extensions également de machines virtuelles, on a également eu une évolution, qui a été annoncée pour les machines Linux, de l'agent qui permet en fait du VM Access, qui permet en fait de réinitialiser le mot de passe d'un compte sur une machine Windows. Et dans le cas d'une machine Linux, désormais, on pourra également rétablir et modifier les accès SSH et les crédentiels, donc les logins mot de passe. On a également une autre extension qui arrive, qui s'appelle OS Patching Extension, qui permet d'automatiser des tâches de patch basées le tout sur un agenda, en fait un calendrier, et on va pouvoir planifier tout ça. Donc c'est plutôt intéressant pour effectivement mieux gérer la mise à jour des machines, mieux gérer effectivement la réinitialisation des mots de passe quand on a perdu le mot de passe ou autre. Et donc à savoir, c'est qu'effectivement, si vous venez avec vos propres images, les VM Agent et les extensions pour Linux sont disponibles sur un GitHub, donc il est possible de les télécharger et de les installer.
Super.
Sur Linux, tu veux peut-être nous parler de CoreOS, Pascal ?
Alors CoreOS, mais surtout en parlant de Docker. Donc Docker, c'est un système de container, entre guillemets, hein, c'est un petit peu la techno à la mode en ce moment. Ça s'appuie historiquement sur des fonctionnalités d'isolation de process qui sont dans le noyau Linux et notamment dans CoreOS. On peut l'installer également dans Ubuntu. Enfin, c'est des choses qui sont assez répandues de nos jours. Si vous voulez plus d'infos, vous allez sur le site docker.io pour voir ce dont il retourne. En gros, hein, et quand Rusinovich en a parlé dans la plénière, j'ai trouvé ça assez clair. Ou alors c'était dans la plénière ou c'était dans sa discussion après ?
Dans la plénière.
Dans son interview après, peut-être qu'il a dit, quand on lui a posé la question, qu'est-ce que c'est que Docker finalement ? Comment décrire ça en quelques mots ? Il a dit Docker, c'est une API. C'est une API qui permet d'aller manipuler quelque chose qui existe déjà dans le système, qui est cette notion de container, entre guillemets, d'isolation de process. Donc ça permet de créer des process isolés avec leurs dépendances dans un package isolé du reste du système, et puis ça permet également Docker, donc il y a d'utiliser un système de hub public sur internet pour aller récupérer des containers déjà tout fait, quoi. Donc sur le principe un peu des app stores, des magasins publics, etc. Donc il y a ces deux choses là dans Docker: le déploiement, le transport, la récupération de choses qui sont publiées, etc., etc. Donc ce qu'on a annoncé, c'est il y a plusieurs choses. Hein. Il y a une chose que Marc Rusinovich a montré en plénière, qui est un client Docker en ligne de commande pour Windows, donc un docker.exe, hein, qui permet de faire les commandes Docker run, Docker, etc., etc. Typique classique de Docker. Donc il permet d'aller commander Docker, qu'il soit sur du Linux ou ailleurs. Hein. Et puis une annonce sur quelque chose qui viendra plus tard. Donc le support de container Docker dans Windows, directement, dans Windows Server. Je pense qu'on a dit que c'était dans le prochain Windows Server. Vous confirmez ou...
On confirme. Dans le prochain Windows Server, effectivement.
Qui n'a toujours pas de nom, mais voilà.
Voilà, mais qui est le prochain.
Donc,
actuellement Technical Preview.
Voilà, donc ça veut dire quoi, ça, d'avoir des containers Docker sur Windows? Ça veut dire la possibilité d'exécuter des process Windows, cette fois-ci, et non plus Linux, dans un environnement isolé du reste du système, sur une même machine. Isolé, mais avec ses dépendances. C'est-à-dire que si une application, si un process a besoin de telle et telle dépendance, ses dépendances seront avec lui dans ce container, entre guillemets. Donc voilà, ça permet un certain niveau d'isolation en utilisant moins de ressources, moins d'espace mémoire et moins de disques qu'une machine virtuelle complète avec un OS complet, etc.
Donc voilà, à surveiller, parce qu'effectivement, ça risque d'être une techno qui va probablement se généraliser.
Manifestement, oui.
Le nom a été particulièrement bien choisi, un Docker, parce que le principe du container qu'on trouve aujourd'hui sur les porte-containers, donc les bateaux... Et donc les camions et sur les docks, en fait c'était qu'il y a un gars qui a eu l'idée de faire une taille standardisée entre guillemets de containers, ce qui fait que les containers en fait ont deux tailles généralement, il y a la petite et la grande pour faire simple, et que globalement on déplace le container sur n'importe quel bateau qui est compatible porte-container. Donc on peut également mettre le container sur n'importe quel camion qui est un porte-container, quoi. Donc vu que la taille est standardisée et ça a permis en fait de faire des millions d'économies à la personne qui avait l'entreprise de transport qui a inventé ce concept-là. Donc l'idée là c'est pareil, le container on pourra le déplacer d'une plateforme à une autre, d'une plateforme d'un socle Linux vers un socle Windows. On pourra même la mettre également dans Azure. À terme, Azure sera également un porte-container Docker.
Tout à fait. Et si Windows l'est, Azure le sera. Dans la lignée logique. Qu'est-ce qu'on a eu également comme grosse nouveauté autour d'Azure? On a eu l'annonce de CPS, Stan. Cloud Platform System.
Oui, alors c'est de l'Azure, mais de l'Azure privé, on va dire. Donc CPS, c'est l'acronyme de Cloud Platform System. En fait, ça s'appelle Microsoft Cloud Platform System. Et c'est fourni par Dell. Enfin, fourni, créé par Dell. Donc en gros... il faut imaginer ça comme étant en fait une solution prêt à l'emploi de type cloud privé. Donc en gros, on achète un rack minimum ou plus en fonction de ses besoins. Et ces racks en fait intègrent tout à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a des baies de stockage qui sont sous la forme de baies de stockage JBOD, donc du PowerVault. On a toute la câblerie en termes de networking avec... avec deux types de switch de chez Dell. Et puis, on a du compute, donc en gros des serveurs physiques de chez Dell, là encore, hein, parce que c'est un rack complet fait par Dell.
Ouais.
Et donc, le tout, en fait, contient, comme en termes de software, contient du Windows Server en 2008 R2, donc avec des hyperviseurs, avec également des scaled file servers, donc des clusters de fichiers actifs, avec du SMB3 pour les communications entre les Hyper-V et les serveurs de fichiers. Le tout est managé en fait par System Center 2012, et en fait, pour être plus précis, en fait, on a tout le pack complet qu'on appelle Windows Azure Pack, qui en fait intègre toutes les briques System Center, plus pas mal de runbook à base de PowerShell, et le portail, un portail d'utilisation donc à consommer par les utilisateurs, les clients du cloud, et un portail d'administration du cloud. Et ce portail en fait ressemble beaucoup, on va dire, au portail d'administration qu'on connaît dans le cloud public Azure.
Ouais. Alors c'est vraiment l'état de l'art intégré de toute notre solution, vraiment la concrétisation de la vision du cloud OS, simplement, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et sauf qu'en fait, on n'a pas à se préoccuper d'implémenter le tout. Je n'ai pas à aller chercher les MBJPod, comment est-ce que je les mets à disposition, comment est-ce que je les mets en haute disponibilité. Tout est déjà préconfiguré. Hein. C'est un petit peu la voiture qui est déjà prête. On vous donne les clés, et puis vous venez positionner vos différents VM, vos différents workloads, et puis vous commencez à être opérationnel, à fournir un service de cloud privé.
Ouais, donc tout est prépackagé, tout est validé, certifié par Microsoft. Donc ça veut dire que les niveaux de driver, les versions de patch, la façon dont c'est installé, provisionné, c'est déjà tout fait et clé en main. Donc effectivement, comme le disait Arnaud, le stockage est présent et exposé, mais toute la configuration sous-jacente, c'est-à-dire tout ce qui est création des storage pools, les storage space par-dessus, avec les meilleures options en termes de redondance et de sécurité, ça a déjà été fait. Le réseau, donc on est sur du cloud privé, donc on a une notion de tenant et d'isolation de réseau. Là encore, c'est entièrement géré et c'est fait sur une base en fait de la techno qui s'appelle Hyper-V Network Virtualisation. Là encore, c'est entièrement packagé et géré par System Center 2012 R2.
Que vous connaissez bien, la virtualisation de réseau.
Oui, oui, et c'est réellement ce qui est implémenté. Donc les passerelles de communication sont montées, les logical networks sont montées, tout est redondé. Donc les passerelles sont clusterisées. C'est vraiment un bel état de l'art, en fait, hein, pour être tout à fait clair. Et donc, du coup, ce sera vendu clé en main avec un peu de service derrière. Et la maintenance et le support, effectivement, se feront directement via Microsoft, qui donc est le support et le garant de tout l'ensemble matériel et logiciel. Après, nous, on a nos passerelles de support vis-à-vis de Dell pour le matériel. Mais globalement, voilà, c'est un cloud privé prêt à l'emploi avec l'interface visuelle qu'on peut avoir aujourd'hui dans Microsoft Azure pour la partie administration ou la partie consommation en tant qu'utilisateur.
Super. Qu'est-ce qu'il nous reste à couvrir au niveau du cloud?
Le Cloud OS Network, peut-être.
Oui, des partenariats,
donc. Voilà, c'est ça. Donc, le Cloud OS Network, c'est un ensemble, en fait, d'hébergeurs, de hosteurs, ou de fournisseurs de cloud, qui implémentent au sein de leur data center, justement, l'équivalent, en termes de briques logicielles, de ce qu'on a mis dans CPS, c'est-à-dire le socle de virtualisation Hyper-V, du stockage et puis les interfaces pour connecter en fait du System Center qui sont dans les entreprises des clients à cet ensemble-là. Donc l'idée du Cloud OS Network, c'est de permettre en fait à des hébergeurs locaux, par exemple, de fournir l'équivalent de ce qu'on fournit dans Azure en termes de machines virtuelles, mais de le faire à l'échelle de l'hébergeur qui, lui, du coup, peut être local à un pays, ce qui, dans certains cas, règle les problèmes de droit du sol, entre guillemets, de dire, bah oui, je ne veux pas mettre mes données au-delà de mon pays, hein. Je vais les mettre dans un hébergeur qui est local à mon pays avec les contraintes légales de mon pays, voilà, par exemple. Donc aujourd'hui, on a plus de 100 pays qui sont couverts par ces partenaires Cloud OS Network. Et puis, on a également annoncé un nouveau programme qui s'appelle Azure Certified for Application Service, qui ouvre désormais un marché applicatif dans un market qui est disponible dans l'interface d'Azure et qui permet de consommer des solutions pré-packagées, pré-vendues par des tiers, mais qui sont exposées dans un service. Un exemple, on peut par exemple acheter de la VM CoreOS, donc c'est un bon exemple parce que ça peut servir pour du Docker notamment. C'est directement disponible depuis le portail.
Ok, super. Et donc on peut conclure cette partie Azure avec la reconnaissance du Gartner, hein, qui dans son dernier magique cadran concernant les solutions de virtualisation et de cloud nous place Microsoft leader dans l'ensemble des quatre magiques cadrans que sont la virtualisation de serveurs x86, le stockage dans du cloud public, les services de stockage dans du cloud public, le IaaS, donc le cloud public de type IaaS, et puis le cloud public de type PaaS, donc plateforme as a service, ce qui est une reconnaissance quand même appréciable qu'il faut noter.
Voilà. Et du coup, on était là très très orienté cloud public. On a commencé à descendre vers le privé avec CPS. Du coup, on va peut-être faire un petit virage du côté du serveur prochaine génération et en général virage par Windows 10 peut-être après.
Je crois que côté serveur, il y a le thème du stockage qui t'a beaucoup plu, Stan.
Ah, c'était la grande fête en fait. Hein. Pour être précis, il y a eu vraiment plein de choses qui ont été annoncées. La technical preview, je le rappelle, est disponible en téléchargement si vous voulez l'essayer. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de vraiment annoncé ou montré qui était plutôt sympa? Donc, tout ce qui est storage quality of service, hein, donc c'est la capacité effectivement pour les administrateurs de définir des stratégies concernant les performances en gros du stockage pour les machines virtuelles, pour les groupes de machines virtuelles ou pour des tenants. Et de dire, on va soit garantir une réserve, c'est-à-dire une valeur minimum, soit appliquer une limite, dans ce cas-là, ce sera une valeur maximum sur les IO par seconde, Et donc, comme ça permet effectivement, dans le cadre d'entreprise où on densifie massivement les machines virtuelles, de ne pas avoir des mauvais voisins de virtualisation, c'est-à-dire des VM qui vont consommer tous les I.O. D'un système, par exemple. Donc ça, c'est une des premières annonces, enfin, ou éléments techniques du stockage qui ont été démontrés dans Windows Server Technical Preview. Une autre avec une super presse sur le sujet, qui était sur le Storage Replica, qui est une technologie de réplication synchrone, où on peut le mettre également dans asynchrone, de type bloc entre serveurs, et ça permet en gros de répliquer des volumes d'un serveur vers un autre, ou d'un cluster d'un géocluster d'un emplacement A vers un emplacement B. Donc l'idée derrière, c'est effectivement de pouvoir répliquer ces volumes et de s'en servir par exemple dans le cadre d'un plan d'emprise d'activité, avec l'option par exemple numéro 1 qui est un serveur A sur un site A réplique sur un serveur B sur un site B, avec une réplication qui se fait derrière sur la couche SMB. Et puis, ou également le géocluster avec par exemple deux serveurs, deux nœuds de cluster sur le site A avec une première B, et puis deux nœuds de cluster sur le site B avec une deuxième B, une réplication entre les deux B, les B étant gérés, étant des volumes vus par Windows. Donc l'intérêt, c'est que la solution est agnostique vis-à-vis du matériel, donc on est réellement sur la banalisation de plus en plus. Et a été annoncé également une autre chose assez intéressante. Alors c'est annoncé de manière très... pas broadband, on va dire, c'était mis dans une session, mais ce qu'on appelle le storage space sharing, qui consiste en fait à utiliser les disques locaux des machines et de faire un scale-out file server sans nécessité de la création d'un cluster avec une ressource partagée, du disque partagé. Donc ça permet de prendre plusieurs serveurs identiques avec du stockage local, et puis de créer une sorte de stockage commun virtuel entre les différents serveurs. Donc ça, c'est vraiment, là, on est vraiment dans de la banalisation, parce qu'on simplifie les architectures de stockage, et basiquement, du coup, on n'est plus qu'avec des simples serveurs qui viennent s'additionner, et qui, du coup, montent la capacité de networking et montent la capacité de disque. Vraiment super, super intéressant. Arnaud, côté Hyper-V, il y a eu des petites choses qui ont été annoncées quand même aussi.
Il y a eu quelques petites choses qui ont été annoncées. Des petits trucs sympas concernant les intégrations de services, par exemple, qui ont un temps passé par Windows Update. Ça paraît anecdotique quand même, mais ça permet comme ça de bénéficier des intégrations de components toujours à jour. On supporte le Secure Boot sur Linux également. On supporte le Connected Standby, c'est plutôt pour la partie client où t'as un petit hyperviseur sur ton sur ton poste client et tu veux que ça marche plutôt pas mal. Par contre, ce qui est vraiment cool comme fonction, une des plus cool pour moi, c'est la possibilité d'ajouter de la RAM à chaud et la possibilité d'ajouter des cartes réseau à chaud. Ça paraît bête, hein, mais ce sera possible dans la prochaine version de Windows Server. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre, mon petit stand dans ce domaine-là ?
Peut-être, y a deux points. Il y a la partie cluster. On va pouvoir maintenant mixer dans un cluster plusieurs versions de Windows. Donc dire, là j'ai un cluster en 2012 R2 d'Hyper-V. J'ai envie de tester les fonctionnalités de la prochaine version de Windows Server. Je peux intégrer la Technical Preview sous la forme de nœuds complémentaires. Tant qu'il y aura des nœuds entre guillemets en vieille génération 2012 R2, on sera en ISO fonctionnel. Dès que tous les nœuds seront en mode Technical Preview ou Windows prochaine version, on pourra monter le niveau fonctionnel du cluster et avoir des nouvelles fonctionnalités sur le cluster. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut également retirer, si on a ajouté dans un cluster R2 des nœuds en Technical Preview, on sait également retirer les nœuds de la Technical Preview et conserver son cluster sans le casser, ce qui est plutôt assez intéressant. On a également fait quelques petites améliorations sur le gestionnaire Hyper-V, donc la console de management d'Hyper-V. Donc, notamment, on supporte plusieurs credentials au sein de la même console, ce qui permet de se loguer à différents environnements, des Hyper-V dans un domaine, des Hyper-V en groupe, sans avoir à ouvrir deux contextes différents. On est sur l'administration multiversion, donc qui peut le plus, peut le moins. Avec la console nouvelle génération, on peut administrer les nouveaux serveurs Technical Preview, les 2012 R2, 2012 et 2008 R2. Et puis on change le protocole également de communication entre cette console de management et les serveurs Hyper-V. Historiquement, c'était du RPC. Désormais, on passe sur du WSMAN. C'est transparent, mais ça a son petite importance pour la partie notamment Firewall.
Ouais, dans la partie réseau aussi, pas mal de choses. On était dans la virtualisation de machines. Là, dans la virtualisation de réseau, il y a eu aussi beaucoup, beaucoup d'investissements qui ont été faits. Pour tout ce qui est software defined networking, hein, on a maintenant un network controller dans le plus pur mode des moteurs de SDN, hein. Donc on a la possibilité avec Windows d'aller discuter avec tout un ensemble de services sur le réseau, tout un ensemble d'API qui permettent de constituer complètement une infrastructure en utilisant différents mécaniques pour découvrir la topologie d'un réseau, et puis une intégration qui va jusqu'aux couches applicatives pour détecter que ben, on a du link sur le réseau, donc il faudra appliquer les bonnes policies sur le réseau. Donc apporter pas mal d'intelligence. S'il y a une fonctionnalité d'infrastructure juste qui mérite sur le qu'on se concentre, c'est le software load balancer. Là, il y a une histoire assez intéressante. Et vraiment une translation des acquis d'Azure directement dans le monde du data center, c'est que chez Azure, on a maintenant systématisé l'utilisation de load balancer logiciel en fait. Et là, ce qu'on a fait, c'est la possibilité de configurer ça des Windows Server. Donc, on saura faire du software load balancing de manière beaucoup plus intelligente, beaucoup plus fine que ce qui était fait jusqu'auparavant dans Windows, qui était le network load balancing, qui était une technologie qui était quand même très, très limitée dans ses utilisations. Donc là, beaucoup d'intelligence là-dessus.
En même temps, le NLB de Windows, il date quand même des années 2000, hein, donc on peut espérer effectivement qu'on ait fait évoluer quand même pas mal le sujet.
Ouais, les années 2000, même peut-être un petit peu avant.
Ah, un petit peu avant, d'accord. Qu'est-ce qu'on a besoin de rajouter sur la partie terminal serveur ou les remote desktop service host? À retenir pour la partie VDI, c'est qu'on va supporter avec les prochaines versions de serveur et également avec le client tout ce qui est OpenGL et OpenCL. Et on aura également la possibilité de définir des grosses quantités de RAM vidéo pour les machines virtuelles. Donc ça, on va dire des choses qui traitent beaucoup de graphiques et qui veulent tourner sous un environnement VDI. Voilà, ça c'était le petit truc à... On termine par Windows 10.
Ouais, bah, difficile de résumer hein, tout ce qui s'est passé en une semaine, mais quelques éléments qui nous ont paru importants sur Windows 10, sur le client.
Sur le client, les choses qui m'ont paru importantes tournent autour de l'authentification avec Azure Active Directory. Et l'authentification avec un double facteur, notamment un téléphone. Il y a une démo de ça, hein, il me semble, en plénière.
Ouais, la démo est assez intéressante. Donc, vous avez un téléphone Windows Phone qui était appairé en Bluetooth avec un PC, une tablette Surface en l'occurrence. Et lors de la phase de logon, en fait, l'appairage, enfin le logon s'est fait automatiquement à partir du moment où le téléphone était posé à côté du PC. Et comment ça fonctionnait? Et ben, en fait, il y a via Bluetooth. Le téléphone, en fait, le PC utilise le téléphone comme un lecteur et une carte à puce virtuelle. Donc, dans le téléphone, il y a un TPM, ça c'est ce qu'on a dans tous les Windows Phone, un Trusted Platform Module. Et dans ce TPM est utilisé pour faire un stockage sécurisé et donc avoir une carte à puce virtuelle. Donc, l'authentification de l'utilisateur, sa carte à puce virtuelle et son certificat sont stockés dans le téléphone. Le téléphone communique avec le PC en appairage Bluetooth. Et automatiquement, le PC en fait ouvre le lecteur de carte à puce, la carte à puce virtuelle, et la consomme pour ouvrir la session. Voilà. C'était la démonstration qui a été faite par Belfior.
Ouais.
Bon, après, il y a eu un petit peu de cosmétique sur le client. Ça, je pense qu'on a vu les différentes options permettant de
mieux travailler sur plusieurs écrans.
Le multi-desktop. Et puis quelques petites choses graphiques. Voilà. Ouais. Le commande prompt transparent ou le copier-coller dans le commande prompt de Windows 10 a encore eu son petit effet parce que les gens ont applaudi.
Le copier-coller, voilà. Je comprends. Sur Azure Active Directory et Windows 10, le fait de pouvoir intégrer, sans pour autant joindre le domaine, mais intégrer un domaine Azure Active Directory et puis s'authentifier contre Azure Active Directory, c'est quelque chose que vous avez un petit peu creusé, vu dans des démos ou...
Bah, en fait, aujourd'hui, dans Azure Active Directory, on peut déjà joindre en Workplace Join, c'est en preview, des machines dans l'Azure Active Directory. L'idée dans le futur, effectivement, c'est du fait qu'on va pouvoir vraiment avoir une similarité, une parité et une réplication bidirectionnelle des informations. C'est que des PC vont pouvoir en fait se joindre directement à l'Azure AD et l'objet sera appliqué après via l'AD interne. Là-dessus, ils en ont parlé brièvement sans rentrer vraiment dans le détail, mais effectivement, l'idée c'est de pouvoir joindre à terme les PC directement depuis l'extérieur de l'entreprise à l'Azure Active Directory, qui est vraiment une extension du data center.
D'accord. Et au niveau du store, les nouveautés du store, notamment la possibilité d'inclure dans le store, enfin d'utiliser l'infrastructure du store public de Windows pour héberger le store privé de l'entreprise.
Tout à fait.
Il y a ça. Et puis, il y a également au niveau du store, comme nouveauté, le fait de pouvoir utiliser le store sans Microsoft Account, sans compte Microsoft.
Donc avec ce qui n'est pas notre entreprise. C'était effectivement une grosse demande qu'on avait de pouvoir effectivement consommer ce store interne ou le store Microsoft, pas uniquement avec un compte entre guillemets grand public, mais potentiellement du coup avec un compte Azure Active Directory.
Voilà, donc, plus les licences en volume également dans le store, donc tous les problèmes qu'on avait historiquement depuis Windows 8 avec le store, le sideloading d'applications, le déploiement d'applications qui était vraiment compliqué. Là, on arrive à une solution qui est nettement beaucoup plus gérable pour des entreprises.
Oui, voilà. Donc, ça clôture bien, on va dire, ce podcast Windows 10. On est vraiment au début, entre guillemets, de l'aventure, hein, vu qu'on est que sur la technical preview tout de suite. Il va y avoir beaucoup plus d'annonces qui vont être faites encore par la suite. Typiquement, aujourd'hui, on n'est plus sur des annonces purement entreprise. Après, on passera dans les prochaines releases probablement sur des annonces un peu plus développeurs. Donc voilà, stay tuned.
Ouais, il y aura un update Windows 10. Ils ont annoncé ça pour la fin d'année, début d'année prochaine, avec des fonctionnalités plus grand public également.
Ouais,
exactement.
Super.
Et bien, merci Pascal.
Merci à tous les deux d'avoir répondu à l'appel. Et puis très bon retour vers la France. En vacances pour certains.
Et puis, on se dit à bientôt pour un prochain podcast.
Très bientôt.
À bientôt, Pascal.
Merci, salut.